Ben, si tu veux, c'est un petit peu aussi le même problème. Enfin, je m'ennuie de parler de moi, ben, puisque tu vas me cerner, tu vas me piéger de toute façon.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
On m'a souvent dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Je crois pas à ça. Je crois qu'il faut avoir une loi, il faut être sa vérité. Il faut se battre proprement, loyalement. Il faut savoir que chaque jour est un combat. Le lendemain, il faut tout refaire. Il faut aller chercher. C'est merveilleux. Aller chercher les gens qui ne veulent pas, qui se refusent, par pudeur. Comme ça, lentement. On ne peut pas tricher.
Un invité. Partez à sa rencontre. Prenez le temps de partager. L'instant 2 sur Radio Grenouille.
Et bienvenue à tous et à toutes sur les 3-8, comme on dit. Mon invité de ce mois est d'abord réalisateur. Le documentaire social, disons-le comme ça, c'est son dada, il le maîtrise parfaitement à l'écran, pour mettre en lumière ces invisibles qu'on ne voit pas et qui pourtant font le monde d'aujourd'hui. En 2004, les réquisitions de Marseille ou l'histoire de la gestion démocratique d'entreprise dans l'immédiat d'après-guerre, co-réalisé avec Sébastien Jousse. Il continue, il remet ça en 2009 dans cette veine sociale et collabore à nouveau avec Sébastien Jousse sur un nouveau sujet social, lui aussi, cheminot, qui met en scène ces hommes et ces femmes qui font le rail et les trains. Aux origines, c'est en tant que journaliste que Luc Joulet aborde sa carrière dans l'audiovisuel et réalise des sujets, entre autres pour des magazines. Pensée globale, agir local, dernière casquette et pas des moindres, il est directeur du festival Images de Ville qui se déroule chaque année au mois de novembre à Aix-en-Provence et à Marseille, dans la région, disons-le comme ça. Le thème de l'édition 2014, c'était le voyage en ville, justement, s'évader sans partir, peut-être une nécessité, encore plus aujourd'hui. La ville et ses représentations au cinéma, c'est principalement ce qui va nous occuper aujourd'hui et vous passionner, j'en suis certaine, pendant cette heure ensemble, car nous sommes tous, presque, en tout cas urbains, car on s'est peut-être tous sentis seuls ou submergés quelque part dans un espace citadin, écologie, culture, architecture, sociale, révolution, crise, technologie, tous les axes sont possibles, ou en tout cas permis, aujourd'hui, à travers le regard de mon invité, parce que la ville change à vitesse grand V, que nous en sommes tous acteurs au quotidien. Alors, si la réappropriation citoyenne ne se fait pas, et dans le bon sens, qui donc la fera? Un bon thé bien chaud, tiens, pour parer l'hiver, du miel au fond pour la douceur. Installez-vous ici, destination ailleurs. Prenez garde à l'ouverture des portes. Attention au départ.
Un moment, s'il vous plaît.
Bonjour Luc Joulet.
Bonjour.
Ça va?
Très bien.
Bon, bien aujourd'hui. Rien à signaler?
Non, rien de particulier.
Rien de particulier.
C'est un plaisir d'être avec vous.
Bah merci en tout cas d'accepter l'invitation de cette émission. Alors, on a une heure pour discuter des sujets que j'ai évoqués, mais pas que. Hein, on ne sait pas, c'est un peu ça le principe de l'émission. C'est les surprises que je vous fais et celles que vous allez me donner aussi. On revient aux origines. Vous me faisiez un petit signe comme ça de la main quand j'ai parlé de journalisme dans votre carrière. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce terme-là?
Non, je ne voudrais pas usurper une identité professionnelle qui n'est pas la mienne. Non, je n'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai eu l'occasion de travailler pour un magazine de la télévision, mais c'était moins par vocation journalistique que par attachement. C'était un magazine du monde rural sur France 3, et c'est un territoire qui m'est particulièrement cher. Donc voilà, c'était plus par attachement à ce territoire qui constitue pour moi quelque chose d'essentiel.
Le monde rural en général ou,
ouais,
ou ouais. Un territoire en particulier? Pourquoi?
Un territoire familial en particulier, mais le monde rural en général, oui.
Vous y avez grandi?
Non.
Vous y êtes né? Vous y avez passé
non.
du temps?
Non. Non,
vous
mais...
pouvez pas me dire pourquoi ça vous touche?
Si, parce que voilà, je pense que mes racines sont... Mais nos racines en général sont là. Même si désormais nous sommes tous des urbains.
Paraît-il.
Mais il n'y a pas très longtemps... nous étions des ruraux, et je pense qu'il ne faut pas oublier, voilà, pour savoir ce que l'on est et où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et c'est un monde, oui, qui m'est cher en termes de valeurs.
Lesquelles?
Je parle, le courage, le travail et l'humilité. Il fallait être, voilà, vis-à-vis des forces naturelles, il fallait rester modeste.
Et les accepter comme telles et les...
Oui, et puis essayer de le faire avec, voilà, de composer.
Ces valeurs-là que vous venez de développer, c'est aussi ce que vous aimez montrer dans vos documentaires, en laissant peut-être la place. Alors, moi, j'emploie ce terme que je vais employer de manière tout à fait absolument pas péjorative, des petites gens ces personnes, je parlais des invisibles, de ceux qu'on ne voit pas forcément ou qu'on ne regarde plus, et qui pourtant sont la force de nos sociétés en général.
Oui, c'était le philosophe suisse Ramuse qui a beaucoup écrit sur le monde paysan et qui disait, en opposition aux paysans et aux autres, il y a d'un côté ceux qu'on n'entend jamais et qui ont des choses à dire, et ceux qu'on entend tout le temps et qui n'ont rien à dire.
C'est quand même vrai.
Voilà, je pense que ce qui m'intéresse, oui, que ce soit avec le travail cinématographique que je fais seul ou que je fais avec Sébastien, c'est effectivement de nous intéresser à ce qu'on ne voit pas forcément, à ce que l'on n'entend pas forcément, et à ce que le cinéma justement permet, quand on prend le temps, quand on cherche à construire et à poser un regard, à mettre un peu en lumière. Et puis, je pense que la démarche culturelle d'Image de Ville est assez proche.
Il y a un autre domaine dans lequel vous avez un petit peu mis votre caméra, comme ça, beaucoup même, c'est le monde artistique et culturel, on va le dire en général comme ça, notamment, parlez-moi de ce voyage à, attention à la prononciation, à Svenigorod. Svenigorod, je le prononce peut-être mal, mais...
Ah, vous avez été chercher loin.
Oui, bien sûr, ouais. C'est le principe.
Ben, c'était justement en travaillant pour ce magazine à France 3, une rencontre avec un projet de sujet, une rencontre avec une compagnie artistique.
C'était... Pas tout à fait comme les autres, cette compagnie.
Ouais, pas tout à fait comme les autres. Là aussi, c'était un peu comme le monde paysan, c'est ce qu'on voit pas ou ce qu'on cherche à mettre à l'écart, puisque c'est une compagnie artistique qui travaille avec des jeunes psychotiques et autistes, avec qui on a eu l'idée d'un film, avec Sébastien, justement. Et puis, c'est une compagnie qui travaille le chant avec ses enfants un peu différents. Il devait y avoir un projet de rencontre avec le chœur de Radio France. Mmh. Voilà. Et cette rencontre nous a tout de suite intéressés avec Sébastien. On a monté un projet de film. Et puis finalement, le film ne s'est pas fait parce que la rencontre ne s'est pas faite, parce que l'institution du chant chorale en France a peut-être eu peur d'aller se frotter avec des soi-disant fous.
Ça fait peur, ces rencontres-là.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
Sur Radio Grenouille. Jouet, vous êtes aussi, donc on le disait, un directeur artistique du Festival Image de Ville. L'année dernière, c'était l'édition, c'est le thème global de l'édition, c'était Voyage en ville. Et justement, moi j'avais envie de parler un petit peu du rapport aussi à ce voyage, cette évasion qu'on peut avoir sans forcément partir d'un lieu. C'est aussi ce que permet en général la culture, l'imagination, l'art, la lecture. Je sais pas, on peut s'évader aussi, faire des voyages comme ça. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce propos? Qu'est-ce que vous vouliez développer dans cette édition 2014?
On voulait s'intéresser à un phénomène mondial qui affecte le quotidien des villes, leur forme, leur organisation en termes d'équipement, qu'est le développement du tourisme à l'échelle de la planète. Et puis, de manière un peu plus localisée, on s'était dit que, au lendemain d'une année capitale européenne de la culture, où il y avait de forts attendus sur le plan touristique, il fallait peut-être revenir un peu sur le sujet une fois que la fête était terminée, quoi. Donc voilà, donc on s'est dit, allez, saisissons-nous à la fois de cette actualité et puis de ce phénomène qui par certains côtés peut avoir des aspects un petit peu inquiétants, quoi.
Inquiétant pourquoi? Comme quoi? Vous parliez du tourisme, c'est ça?
Oui.
De ses conséquences?
Oui, de la manière dont ça bouleverse un peu les villes. Quoi.
Tourisme, culture, Marseille, bon, le MUCEM par exemple, qui est toujours d'ailleurs une institution culturelle aujourd'hui maintenant reconnue, en tout cas chez nous, qui, je trouve, très personnel, invite au voyage, notamment quand on se balade autour et qu'on a quand même une magnifique vue sur Marseille. Vous, cette institution-là, vous trouvez que c'est une invitation au voyage? Vous partagez ma vision ou pas?
En tout cas, c'est une invitation, je trouve, à redécouvrir un territoire qui avait été un petit peu dissimulé, ou en tout cas un nouveau territoire de la ville. Il suffit de se souvenir de l'engouement des Marseillais, et pas forcément que des Marseillais, quand le MUCEM a ouvert. Je pense qu'il y avait un véritable désir de ville à ce moment-là.
Il y a toujours d'ailleurs, quand on y va le dimanche, hein, par exemple, c'est le rendez-vous, enfin c'est toujours plein, en tout cas, pas forcément à l'intérieur du musée, mais aussi à l'extérieur. C'est peut-être sa force d'un endroit de balade et d'évasion, voilà, la mer un peu comme horizon.
Je crois que ça, c'est le talent de Rudy Ricciotti, qui est un architecte qu'on aime bien à Images de Ville. Au-delà de ça... Voilà, je pense que quand l'architecture se met porte un peu d'attention à la ville, à ses habitants, à ses usages, mais ne fonctionne pas uniquement pour elle-même, ça produit des choses, intéressantes sur le plan social, sur le plan culturel, et je pense que le MUCEM en est une belle illustration, quoi, ce lien tissé. Ces fils noirs jetés de part et d'autre du quartier du Panier et du J4,
Et très ouvert
aussi.
C'est
très émouvant.
On a une ouverture sur le monde qui est évidente. Vous parliez d'architecture, c'est un sujet qui vous touche et qui vous intéresse aussi. Toutes ces nouvelles vagues, j'allais dire sans comparaison avec le cinéma, on y reviendra tout à l'heure, mais de cette nouvelle manière de concevoir l'architecture au cœur de la ville, l'architecture sociale, on peut le dire comme ça, l'urbanisme social, ces nouvelles tendances, est-ce que vous pensez qu'elles ont un avenir et qu'elles sont nécessaires ?
On se garderait bien, à Images de Ville, on dit toujours qu'on se mêle de ce qui ne nous regarde pas, donc souvent les personnes qu'on rencontre, qui ne nous connaissent pas encore, pensent qu'on est architecte ou urbaniste, et on se garde bien de leur dire que dans ce domaine-là, on n'y connaît pas grand-chose, et c'est justement parce qu'on n'y connaît pas grand-chose qu'on s'y intéresse. Ça m'intéresserait au même titre que ce qui peut se passer dans d'autres domaines, je pense en particulier culturel, ou encore plus particulier le cinéma. Quoi. Je me souviens que sur cette dernière édition, avoir rencontré, puisqu'on a eu le plaisir de le recevoir donc au mois de novembre dernier, l'architecte Alain Moati, qui a redessiné donc le premier étage de la Tour Eiffel, qui a redessiné aussi le centre-bourg, ici à Marseille, qui avait redessiné la grande halle des anciens ateliers SNCF à Arles avec son associé Alain Rivière. Quand on s'est vu la première fois, il m'a dit en ce moment, la profession de l'architecture traverse un bouleversement profond, quoi. Notamment par la défection de plus en plus importante de la commande publique. Et donc il va falloir réinventer de nouvelles manières de faire de l'architecture. Et c'est vrai que je pense notamment au collectif etc., qui est un collectif de jeunes architectes et urbanistes qui essayent de partir du besoin... du besoin des gens, à partir de là, d'inventer, ou en tout cas d'imaginer la réponse architecturale ou urbanistique. Voilà, je trouve que c'est des manières de ne pas attendre que les choses viennent d'en haut pour les inventer concrètement sur le trottoir. Quoi.
C'est parfait, parce que vous venez de me faire une transition absolument magnifique sur repartir du bas, ou en tout cas plonger vraiment sur le trottoir. Je vous propose qu'on écoute, Luc Joulet, une petite création sonore qui a été faite avec des extraits de vie dans des villes. Je ne vous dis pas de quelle ville il s'agit, il y en a deux. Je vous dirai pourquoi après, vous allez essayer de les reconnaître. Pourquoi pas, écoutez, allez, plonger au cœur d'une ville ou de deux.
Nasri, who's had a much better game today. Nasri Milner was pointing, it's gone instead to Yaya Touré. Yaya Touré, edge of the area. He's just closed down by Carrick. Feeds the ball in towards Negredo, and that was a good recovery from Vidic.
Moje ludo radovanje.
Pourquoi pas ? Une plongée comme ça dans deux villes, alors Luc Joulet, une petite idée ? Où est-on là ? Où étions-nous ? Comme ça, une idée.
Oui, j'aurais dit versant anglo-saxon et versant méditerranéen.
Pas mal, vous restez général, voilà. Comme ça, c'est ça. Vous n'avez pas de réponse. Non, non, c'est exactement ça. On était à Belfast, tout d'abord, et puis à Mostar, un petit peu mélangé. Donc Mostar en Bosnie, Herzégovine et Belfast en Irlande du Nord. Je remercie Emma Lebeau et Camille Rossa, qui sont deux jeunes réalisatrices qu'on a reçues dans l'Instant 2 l'année dernière et qui travaillent sur un projet qui s'appelle Les Rêves d'en face, où elles vont dans des territoires divisés, encore des villes divisées qui ont été marquées par une guerre, des conflits, des troubles, comme on les appelait à Belfast, et donc qui rentrent par le rêve des habitants pour parler de la ville. Merci à elles de nous avoir prêté un petit peu leur son sur lesquels elles travaillent. Ça vous inspire quoi tout ça, ce qu'on vient d'entendre, et ce projet-là justement d'entrer par la parole des citoyens et même de leurs rêves pour parler de leur ville?
Je pense que la ville, ça n'est que ça. La ville, elle ne vaut que par la parole des citoyens et que par l'imaginaire qu'elle est capable de susciter. Je pense que c'est par là qu'il faut partir. Et en tout cas, nous, à Images de Ville, quand Bruno Jourdan, puisque c'est à lui que revient quand même la paternité de cette idée, de ce projet, donc Bruno qui était producteur de films documentaires ici en région, qui a eu cette idée de réunir cinéma et architecture et de monter Images de Ville, de faire le festival et tout ça. Voilà, c'était de se dire la ville, c'est pas uniquement une carte, c'est pas uniquement des plans, c'est pas uniquement des budgets, c'est pas... Voilà, c'est d'abord de la matière humaine et puis du désir, du rêve, de... Voilà, puis c'est un enjeu à la fois individuel et collectif, quoi. La ville, ça s'habite, ça...
Ça se réapproprie aussi.
Ouais, c'est Thierry Pacot, le philosophe de l'urbain, qui est également président d'Images de Ville, mais qui insiste toujours beaucoup sur... Et c'est vrai que c'est un mot qui me séduit de plus en plus de par sa profondeur. C'est le verbe habiter, ce qui est pas qui se résume pas à la question du logement.
À la première notion
de se loger, mais c'est comme le décrivait Heidegger, c'est être présent au monde et à autrui. Et je trouve que la ville, c'est ça. La ville, ça sert à habiter, ça sert à être présent au monde et à autrui.
Les villes aussi, on en revient divisées, en tout cas qui ont connu des guerres ou des révolutions. Vous en avez, vous y êtes allé aussi dans la programmation l'an dernier de Images de Ville, notamment avec Le Voyage et tout autre, ou encore le film Die Welt, c'est bien comme ça.
Die Welt.
Die Welt, excusez-moi, je ne suis pas germain, c'est allemand.
C'est allemand.
C'est en Tunisie notamment, les révolutions arabes aussi, vous vouliez... remontrer aussi, remettre en lumière ces gens-là.
Oui, puis ça participe surtout d'une relation qu'on a ouverte avec les Rencontres internationales des cinémas arabes, le festival qui est né donc en 2013 à Marseille. Et notamment avec Tahar Chikaoui, le directeur artistique des Rencontres, il s'est tout de suite passé quelque chose et... Tahar est venu sur le festival 2013 avec un cinéaste marocain, un cinéaste tunisien. Il a invité Images de Ville dans la deuxième édition des Rencontres. Tahar est revenu en 2014 sur le festival. Voilà, il se passe quelque chose, et même si on est sur même si on est deux festivals de cinéma, mais sur des positions différentes, on se rend compte qu'on a quelque chose à partager, et on essaye à chaque fois dans nos événements respectifs de faire en sorte que cette part commune qui nous réunit, on la mette à chaque fois en questionnement, au travail, quoi.
Vous parliez des villes habitées, ou en tout cas d'habiter la ville en tant que urbain, citoyen, peu importe. Il y a aussi ces dernières années, la crise a aussi marqué profondément nos villes dans le monde. et on a parfois, les a parfois rendues désertes. On peut penser à Détroit, par exemple, la ville de Détroit, qui a des images absolument incroyables, sur des rues totalement vides, des industries laissées totalement à l'abandon, des maisons avec ce panneau sale, quoi, à vendre, même si on sait que on ne sait plus où est l'argent, parce que clairement, il n'y en a plus. C'est un sujet qui vous touche aussi aujourd'hui, que vous aimeriez montrer à l'écran, d'une manière ou d'une autre, dans votre travail de réalisateur ou de directeur artistique du festival.
Ah bah au festival, ça, on l'a fait, et je pense qu'on l'a bien fait, notamment en accompagnant un cinéaste français, Florent Tillon, qui avait fait ce trajet entre Détroit, son premier film, enfin son premier film, non, il en avait fait avant, mais en tout cas c'est sur ce film-là qu'on s'est rencontrés et qu'on a accompagné Florent dans la diffusion, en tout cas qu'on a apporté une contribution à la diffusion du film. Et puis on avait accueilli Florent en 2012 dans le festival pour le projet qui a suivi Détroit, qu'il a fait sur Las Vegas. Et on avait accueilli le film en chantier, puisqu'on veut aussi que le festival ce soit l'occasion pour des cinéastes de montrer des films en train de se faire, parce que voilà, c'est aussi l'occasion d'une manière de faire comprendre aux spectateurs le travail.
Qu'un film ne fait pas tout seul.
Oui, que c'est pas juste à allumer la caméra et filmer, non, il y a un travail bien en amont qui est peut-être le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut regarder, comment on veut le regarder et ce qu'on va chercher avec le film. Donc Florent était venu en 2012 avec Las Vegas Meditation en chantier, et l'année dernière, en 2014, il est venu avec le film fini. Et maintenant, on est en train de réfléchir avec son producteur, qui est d'ailleurs un producteur marseillais, comment accompagner la diffusion du film.
Donc
on est là, c'est un bon exemple, je trouve, pour résumer un peu l'ambition culturelle d'Image de Ville. Mmh. Voilà. D'essayer d'être, de balayer l'ensemble du spectre de la création cinématographique depuis l'émergence des projets jusqu'à leur rencontre avec le public.
Avant, pendant, après.
Avant, pendant et après, ouais. Puis de suivre des gens aussi, c'est important, je pense, d'être dans la relation humaine. Quoi.
Mmh, oui.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.
Il y a une autre représentation de la ville, j'ai osé, mais pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner. Moi qui m'a quand même un petit peu, j'y suis revenue, j'ai replongé un petit peu dans mes CD d'adolescente et je suis retombée sur quelque chose que je vais dévoiler, voilà, aujourd'hui. J'étais très fan, Luc Joulet, je vous le dis, de Starmania, la comédie musicale de Luc Plamondon et Michel Berger. Et en fait, en replongeant dans mes CD, en réécoutant, parce qu'il faut faire ça souvent, aller chercher un petit peu en profondeur d'où on vient aussi, et peut-être l'accepter, j'ai retrouvé quand même des paroles que je trouve assez avant-gardistes. Ça a été fait en 1979, cette comédie musicale, l'opéra rock, comme on l'appelait. Une façon de voir la ville qui est pour le coup un peu prémonitoire, dans une manière assez négative de l'envisager, sur l'individualisme, les gens qui sont des numéros, métro, boulot, dodo, une ville qui s'appelait, dans la comédie musicale, Monopolis.
Quelque chose à Monopolis, cette ville où il n'arrivait jamais rien, où l'on appelait la police que si l'on avait perdu son chien. Il se passe quelque chose à Monopolis, cette ville nouvelle, cette ville modèle, avec ses souterrains à l'air conditionné et ses buildings de verre qui filtrent la lumière et ses banlieues chauffées à l'énergie solaire, où il n'y a plus d'été, où il n'y a plus d'hiver. Il se passe quelque chose à Monopolis. cette ville qui semblait faite pour le bonheur des hommes, vit maintenant aussi à l'heure de la terreur. On ne sort plus le soir à New York ou à Rome. Quand le soleil se couche, tout l'Occident a peur.
Ouh. Mais j'assume. J'assume, Luc Joulet. Pourquoi pas me regarder en souriant. Vous moquez pas de moi parce que dans cette chanson, il y a un autre morceau, ça c'est ce qui ouvrait la comédie musicale, c'est la version de 88. Une autre chanson qui est en corrélation, hein, qui s'appelle Monopolis aussi. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau. Bon, toutes ces questions sont développées. Aussi, les problèmes d'écologie. Une ville qui n'a plus d'espace vert, qui, en tout cas dans la comédie musicale, hein, qui n'a plus de respiration, ni humaine, ni naturelle. Une réaction, peut-être ?
Un titre de film.
Allez, un titre de film.
THX 1138 de Lucas.
Oui.
Qui est un grand film, un de mes films favoris sur la ville.
Pourquoi ?
Parce que voilà. C'est...
Sur ces questions-là aussi ?
Oui, c'était quand même une vision. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous vous en souvenez, mais c'est un grand film sur ce que pourrait devenir la ville si à un moment donné on la laisse échapper, quoi.
Et on réagit pas. Est-ce que les films catastrophes aussi, alors, c'est pas du tout ma cam, hein, comme on dit, mais est-ce que c'est le reflet ? Il y en a de plus en plus quand même. Hein. 2012, j'ai l'impression que ça a fleuri, si j'ose employer le terme, mais pensez que c'est le reflet d'une angoisse des gens, des citoyens par rapport à l'avenir de leur ville.
Bon, je pense que de toute façon, c'est une ligne esthétique qui existe depuis longtemps dans la littérature, dans le cinéma, dans la peinture.
Est-ce que ça peut faire réagir les gens ou est-ce que c'est un discours trop négatif à votre sens sur les conséquences néfastes de...
Je ne suis pas sûr que faire peur à la... Enfin, rajouter de la peur à la peur, ça forcément... Ça aille forcément dans le bon sens. Après, moi, je pense qu'il faut... Voilà, la ville, c'est quelque chose de compliqué, oui. Elle est de plus en plus compliquée. Mmh. Donc, je pense qu'il faut essayer, au contraire, de clarifier les dans la mesure du possible, de clarifier un peu les choses, de donner à comprendre. Nous, c'est avec Image de Ville, c'est ce qu'on cherche à faire.
D'être plus sur l'aspect imaginaire, représentation, évasion, enfin en tout cas pour l'année dernière, voyage, une image plus positive de la ville aussi, de ce qu'on peut en faire, de ce qu'elle est, quelque part ici, ailleurs.
Enfin, je ne sais pas si c'est positif, négatif, c'est peut-être pas ça, c'est d'en dévoiler un peu toutes les contradictions, toutes les couleurs, tous les parfums. Voilà, c'est pas la ville, c'est pas quelque chose de noir ou c'est pas quelque chose de blanc. C'est une multitude de teintes dans lesquelles il faut essayer d'être le plus d'offrir la plus grande gamme possible. Mais je pense que la ville, c'est avant tout un territoire de... Ça devrait être, en tout cas, un territoire d'éducation,
d'échange, de partage.
Ça doit nous servir à grandir.
Il y a une exposition qui a eu lieu l'année dernière, enfin jusqu'au mois de février 2015, et c'était sur François Truffaut et les 30 ans de sa disparition à Paris, la Cinémathèque. Je vous propose que, pourquoi pas, pour une ode un petit peu à la vie, on se retrouve dans quelques minutes, juste après un extrait, moi, qui m'est cher. Ça marche, Luc Joulet ?
Allez.
À tout de suite.
Le balancement du rocking chair nous convie au plaisir de la chair.
Et cette chanson,
ça commence à être au point.
Oui, c'est vrai, hein, Albert ? On y va ?
Allons-y.
À mon avis, c'est beaucoup trop beau pour eux, mais tant pis, on choisit pas sans public. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait la vague de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émure plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un. C'était un Jeanne Moreau, bien sûr, dans Julie Jim de Truffaut, le joli tourbillon de la vie, toujours avec Luc Joulet, mon invité, entre autres, directeur artistique du festival Images de Ville. Luc, vous me disiez en micro que Truffaut, c'était pas forcément une influence que vous avez eue dans votre travail, en tout cas de réalisateur, ou votre vie en général.
D'étudiant en cinéma.
D'étudiant en cinéma. Vous êtes plutôt Godard, vous ?
Oui, j'étais plutôt Godard. Oui.
J'étais ?
Mmh.
Ça veut dire quoi ? Alain Parfait.
Parce que je ne suis plus étudiant en cinéma.
parce que vous n'aimez plus Godard, c'est ça ?
Si. Enfin, les plus anciens. Oui.
D'accord, ça va. Vos influences, vous en avez, ça ? Cinématographique ?
Bah oui, pas vous ?
Oui, bien sûr.
Vraiment.
Mais ça, c'est pas moi qui parle aujourd'hui. C'est pas moi qui suis invité de mon émission. Ce serait absolument bête et débile.
Bien sûr qu'on a des influences, heureusement.
Bon, alors lesquelles ?
En cinéma ?
Oui.
Ah, bon, il y avait un grand cinéaste français qui m'avait beaucoup marqué, c'était Robert Bresson, dans cette volonté d'inventer un cinéma à lui, quoi. Voilà.
Pour le coup, sans influence ? Il y en a toujours.
Avec forcément des influences, pas forcément du cinéma, dans la littérature et tout ça. Mais c'était assez beau de voir comme ça un cinéma totalement singulier apparaître et essayer de se battre un peu contre le système. Bon, après, voilà, il y en a d'autres.
Hein. Ouais. En revanche, le cinéma, il donne aussi une place, certains cinémas donnent une place à la ville, moi je dirais comme presque personnage d'un film. Je pense notamment au cinéma de Woody Allen. On pense à Manhattan, Annie Hall. Vous, dans l'édition de l'an dernier, vous avez justement décidé d'en programmer un de film de Woody Allen. C'était Vicky Cristina Barcelona, où là, Barcelone aussi a sa place, dans le film. Pourquoi ce choix-là ? Pourquoi ce film-là de Woody Allen ?
C'était un choix d'une de nos invitées de cette édition, Maria Gravary-Barbas, qui est architecte et géographe et qui est la spécialiste en France de la question du tourisme et de la ville. Ou du tourisme dans la ville. Et Maria avait choisi ce film parce qu'elle avait présenté notamment une séance autour du thème de la rencontre avec la ville, notamment lorsque l'on arrive comme ça au seuil d'une ville sans forcément la connaître et qu'il va falloir faire le pas suivant pour y entrer.
Et, pas toujours évident,
puis de savoir si la rencontre va fonctionner ou pas. Et puis également sur la question du ciné-tourisme, puisqu'il faut quand même savoir qu'il y a parmi les touristes à l'échelle du monde, beaucoup choisissent leur destination en fonction des films qu'ils ont vus.
Exactement, oui.
Et que le cinéma devient, pour certains films, un outil de marketing urbain.
Vous pensez que Marseille inspire depuis
depuis
plus belle
la vie ? Mais pas forcément dans des dimensions touristiques et marketing, oui. Regardez Leur exquise de René Alliot, c'est un des plus beaux films qui n'a jamais été tourné sur Marseille.
D'habitude, dans cette émission, vous me faites penser, parce que je propose de faire un portrait de l'invité. Mais là, j'ai décidé de ne pas le faire avec vous, Luc Joulet. Vous allez comprendre. C'est dommage. Vous allez comprendre pourquoi, parce que étant née à Marseille, marseillaise et fière de l'être, je trouve que souvent, quand on parle de Marseille, quand les gens en parlent en tout cas, surtout ceux qui sont d'ici, mais d'ailleurs aussi, ils en parlent comme une personne. Une sorte d'identité, je sais pas, Marseille, ça m'a toujours fait cet effet-là. Et j'ai demandé à une vraie Marseillaise, allez, vraie Marseillaise, j'adore ce terme, vous allez voir pourquoi, Julia Rondon, d'en parler comme si c'était la première fois.
Parlez-moi d'elle.
Instant 2.
comme si c'était la première fois.
Il est peut-être 6 heures du matin, ou peut-être 7. Le soleil s'est à peine levé et tu débarques. Tu débarques au port. Tu portes la valise à la main et tu tiens l'enfant. C'est chez toi maintenant. C'est ton pays, toi, l'apatride. Tu as fait un long voyage, douloureux et peu confortable. Tu as été entre les flots, les bourrasques, les vagues. La mer, à vrai dire, ne t'a pas fait de cadeau. Mais Marseille t'accueille, coincée entre la roche calcaire et la lumière du sud. Marseille et son accent, son mélange, ses odeurs. Voilà ton quartier, ta maison, les bruits qui seront tiens. C'est l'exil. Voilà, Marseille, c'est l'exil. Et c'est l'accueil pour tous ceux qui, à travers les siècles, les drames, les histoires, ont posé leurs valises, saisissant ce qui se présentait à eux. La bonne mère veille sur les marins et sur tous ceux qui débarquent un matin d'hiver froid. Le mistral souffle, le ciel est bleu presque étincelant, et ils portent la valise à la main et ils tiennent l'enfant, l'enfant et l'espoir. Quand tu montes comme ça tout en haut là sur la colline où il y a Notre-Dame de la Garde, tu domines la rade de Marseille, donc c'est magnifique, il y a la lumière, il y a le bleu, il y a le blanc, il y a la mer, tout se mélange, les mouettes chantent au-dessus de toi, et quand tu rentres dans l'église, quand tu rentres Notre-Dame de la Garde, il y a tous ces petits bateaux, tous ces petits voiliers qui pendent depuis le plafond comme ça dans la nef, et ça recrée les flots, les vagues, et si tu respires un peu fort, si tu respires un peu fort, je pense que tu peux sentir les embruns. Et c'est magnifique.
Qui a accepté de jouer le jeu aussi de l'instant 2 et de parler de Marseille. Luc Joulet, mon invité aujourd'hui, ce que vous avez entendu sur cette manière de la voir, Marseille, ça vous parle? Marseille, c'est l'exil et l'accueil en même temps?
Bah pour quelqu'un qui vit à Marseille et qui n'est pas marseillais, on ne va pas
la
dire le contraire.
Oui. Derrière, vous avez entendu la musique d'un groupe syrien, franco-syrien, Baba Salam aussi, qui est venu d'ailleurs à Marseille dans le cadre de Visage de Syrie, l'année dernière déjà au Mucem aussi. Mm-hmm. Cet amour-là de Marseille, de cette ville, vous l'avez vous aussi, Luc Joulet?
Oui, oui. Enfin, l'amour, je ne sais pas, mais en tout cas l'attachement, oui, ça c'est certain. Mm. L'amour un peu vache des fois, parce que cette ville peut être aussi profondément énervante, ouais. Mais un attachement, oui, oui, c'est évident.
Et de choisir, c'est le choix de Julien, de cette arrivée, voilà, la question c'était parlez-moi d'elle, donc comme une personne, comme si c'était la première fois, de choisir le moment où on arrive comme ça de la mer, c'est l'exilé, l'immigré qui arrive aussi dans cette ville d'accueil, ce port, quoi, ouvert sur la Méditerranée, sur le monde.
Oui, j'ai fait un film sur un boxeur pendant 10 ans, qui était arrivé à Marseille juste avec une serviette dans son sac et un billet de 500 francs dans sa poche, tout ça pour devenir champion.
Vous l'avez suivi pendant 10 ans?
Ouais, pendant 10 ans, ouais. Ça a fait un film qui s'appelle Toujours Debout, et Mustapha Ham, puisque c'est son nom, il est toujours à Marseille. Il a arrêté la boxe professionnelle parce qu'il a vieilli. Mais oui, c'était une manière aussi de raconter, je pense, c'était au moment où je me suis installé à Marseille, donc une rencontre fortuite, une belle histoire, un personnage éblouissant par la lumière qu'il avait dans les yeux. Donc forcément, on a tout de suite envie d'en faire un film, et puis comme il était devenu champion de France et qu'il se battait pour devenir champion d'Europe, je l'ai suivi pendant quelques années. Et notamment dans sa quête d'un titre de champion d'Europe qu'il n'a jamais gagné.
Ironie de l'histoire, il a gagné autre chose. Mais d'ailleurs, de suivre comme ça quelqu'un pour un film, un documentaire, pendant autant d'années, quel est le rapport du coup, j'allais dire, au personnage du film? Mais ça doit créer des liens quand même extrêmement forts, non? C'est un temps tellement long de réalisation.
Bah oui, mais c'est ça le cinéma. C'est pas, on n'est pas à la télé où il faut faire les choses vite, où à peine posé on est déjà reparti, où on prend pas le temps d'écouter. Où, voilà, faire du cinéma, c'est d'abord se taire, c'est d'abord ouvrir les yeux et les oreilles, et puis une fois qu'on a commencé à peu près, qu'on pense avoir commencé à comprendre,
c'est important qu'on pense.
On peut se permettre de l'ouvrir un peu.
Pas avant.
Pas avant.
Est-ce que vous voulez l'ouvrir en musique? Parce que je vous ai demandé d'apporter un morceau, comme tous les invités de cette émission.
Ah ouais, vous m'avez piégé par un texto hier soir.
C'est ça, c'est le droit de le dire. Ouais. Très tard.
Donc c'est vrai que j'ai un peu réagi au dernier moment.
Et c'est le principe. Tout est calculé là. Mm-hmm. Tout est calculé.
Très manipulatrice.
C'est ça, pour garder un peu de spontanéité, mon sang. Et vous avez choisi alors justement un groupe marseillais.
Ouais.
Massilia Sound System. Mm-hmm. On l'écoute ou vous m'en parlez avant?
Je pense qu'on peut l'écouter, mais c'est sur la ville. On voit bien que la ville, ça travaille les choses de l'intérieur, les gens, les esprits, et que c'est quelque chose qui fait partie de nous. Je pense que ce titre des Massilia, c'est bien ça, et que être lié à une ville, c'est aussi, c'est pas s'enfermer sur soi, c'est au contraire s'ouvrir vers le monde et vers les autres. Voilà, je pense que c'est, si je me souviens bien, je crois que c'est ça la chanson.
On y va, on l'écoute alors.
La chose est dédicacée à tous ceux qui se bougent contre le Front National, et surtout à Vitrolles, à Marignane, à Orange et à Toulon. Boulet Gauthier Cousin, il reprend la parole, allez. La grande ville où je suis né, appelée Marseille par les Français, porte de l'Afrique dès l'Antiquité, elle fut construite par des immigrés. Depuis bien longtemps, elle vit en paix, dans le respect de toutes les communautés. Mais depuis 10 ans, dans la tête des gens, de drôles d'idées commencent à germer. Hey, ma ville tremble, ma ville est malade, de Bonne-Veine jusqu'aux Égalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de Bonne-Veine jusqu'aux Égalades. Il y a des Arméniens, il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Italiens, il y a des Marocains, il y a des Comoriens. Ici se trouvent rassemblés presque tout le genre humain. La cité a été bâtie grâce à ses millions de mains. Tout le monde vit sa vie et beaucoup s'y trouvent bien. La culture de ce pays qu'on appelle l'Occitanie a toujours su intégrer les gens de tous les pays. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je dis, mais je reprends mon argument, je développe, je poursuis. Car ma ville tremble, ma ville est malade, de Bonne-Veine jusqu'aux Égalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de Bonne-Veine jusqu'aux Égalades. Les gens venus de partout qu'on appelle l'immigrant, nous en avons pour voisins, certains sont nos grands-parents. Ils font leur bout de chemin et un jour ont des enfants, d'adorables chérubins avec de jolies mamans. Mais vous savez les enfants, ça va toujours grandissant. Et voilà qu'un beau matin le bambin fête ses 3 ans. Il va nous parler, enfin toute la famille attend. Il ménage son effet, en fait il prend tout son temps. Il ouvre la bouche et dit maman j'ai faim, avec l'accent. Et pourtant ma ville tremble, ma ville est malade, de Bonne-Veine jusqu'aux Égalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de Bonne-Veine jusqu'aux Égalades. Tous les samedis au stade de Vélodrome, tous les supporters s'écrient comme un seul homme. Allez l'OM, on est tous avec toi, allez l'OM. Les Marseillais seront toujours là. Pour qu'une équipe fonctionne, il faut qu'elle soit soudée. Et ça je crois bien que personne ne peut le contester. Le jeu ouvert, c'est bien mieux que de s'enfermer si c'est pas clair. Dès qu'on ne peut s'y retrouver, monsieur le maire, c'est à vous que je viens parler. C'est un repère dont ont besoin les Marseillais, respirer l'air. Je crois bien qu'il est pollué d'eau à la mer. Nous ne pouvons plus reculer, alors ouvrons un grand débat, parlons d'identité. Montrons à tous ces pébrons que nous savons ce que c'est. La Provence a des valeurs, j'ai dit hospitalité. Oublions le doute et la peur, c'est de l'avant qu'il faut aller. Et pourtant, ma ville tremble, ma ville est malade, de Bonne-Veine jusqu'aux Égalades.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.
Luc Joulet, mon invité de ce mois-ci. Luc, merci pour le choix de la chanson, Massilia Sound System. Ma ville est malade, vraiment?
À condition de s'en occuper, ou il faut s'en occuper pour qu'elle ne soit pas malade.
Bah, parlons un peu des alternatives qui existent aussi dans les villes. Il y en a une qui me touche particulièrement, que vous connaissez peut-être. C'est un exemple, tout d'abord celle de Toronto, qui en ce moment a mis en place une agriculture urbaine pour subvenir aujourd'hui, on a eu quelques chiffres, à 20% des besoins des citoyens de cette ville, grâce à ces grands jardins partagés, là pour le coup, qu'on peut mettre en place et qui sont donnés par la ville de Toronto, et voilà, qui sont donnés à des collectifs qui organisent ces alternatives-là. Il en existe ici aussi, bien sûr. On les entend peut-être. Voilà, on les entend peut-être pas assez, mais vous voulez nous en parler de ces alternatives-là? C'est quelque chose qui vous inspire aussi? Vous y croyez à ça?
Je pense qu'à partir du moment où on saisit de la ville, il faut surtout pas, attendre quoi que ce soit des architectes, des urbanistes, ou des responsables politiques. Enfin, non, je dis ça en rigolant, mais...
Je dirais pas, vraiment. Non, ça sonnait vrai. Hein.
En tout cas, faut pas craindre la contradiction, le dialogue, la rencontre. Mmh. Et puis, il faut surtout pas penser qu'on ne sait rien. Je pense qu'on sait, on a l'expérience du quotidien, on a cette sensibilité qui est notre pratique de la ville, de tous les jours, etc. Et ça vaut tout autant que le savoir expert, etc. Donc c'est un peu ça notre truc à Image de Ville, c'est qu'on aime bien aller chercher les gens, nos amis architectes, urbanistes et autres savants, les prendre un peu par la main gentiment, mais en les tirant quand même de manière un peu décidée pour leur dire faites un pas de côté, quoi. Sortez un peu de vos bureaux, de vos agences, allez voir des films, écoutez les gens, prenez des bouquins. Voilà, c'est une expérience irremplaçable, quoi, quand même.
Il y a un film qui est un petit peu sorti des sentiers battus de plusieurs manières. Tout d'abord par sa manière d'être produit, du mécénat participatif, on va dire. On peut faire des dons sur Internet. C'est le film Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion, d'un collectif aussi, Colibri, qui abordait ces questions d'écologie en général, d'environnement, et qui ont réussi à financer leur film, la production qui est en train de se terminer d'ailleurs, si ce n'est déjà le cas. Pour sensibiliser, alors j'ose plus dire positif, de manière positive, mais en tout cas un petit peu légère aussi sur les possibilités qu'on a pour agir, nous, individuellement, collectivement, pour redonner une place un petit peu agréable à la ville, à la nature au cœur de la ville, aux espaces verts, à ces projets alternatifs, ces villages alternatifs qui existent déjà en France et chez nous aussi. C'est un beau titre quand même, Demain. Vous pensez que moi je trouve qu'on a besoin un petit peu de ça parce que voilà, oui, la situation est compliquée dans nos villes en termes de développement, d'environnement, d'économie, mais on a besoin de ça. Et vous pensez que des films qui sont produits de cette manière-là peuvent permettre d'inclure les gens?
Oui, de toute façon, il est clair qu'aujourd'hui là. Et c'est aussi ce qui nous intéresse un petit peu dans le festival, mais plus largement dans Image de Ville, c'est de s'intéresser aussi aux nouvelles formes de cinéma. Je pense que, notamment d'un point de vue technologique, les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles aujourd'hui sur le plan technique. Donc voilà, il faut s'emparer des petites caméras, des choses comme ça, et faire les films.
Des appareils photo, comme on en fait déjà, des films avec...
Alors après, faut pas forcément non plus... faut peut-être aussi arrêter de se photographier le nombril.
Ah non, je parlais pas des selfies, je voulais quand même prêter des...
Mais voilà, tout le monde aussi ne...
Il y a des très bons films qui sont faits avec des appareils photo.
Tout à fait, c'est ce qu'on fait nous, d'ailleurs.
Ben voilà, oui,
donc,
vous êtes d'accord avec moi.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin, là aussi, d'un savoir expert pour se dire à un moment donné, j'ai envie de raconter une histoire et j'ai envie de la faire partager aux autres.
Donc, Internet le permet, ça aussi, quand même, de
oui,
monter
alors,
un
y a
projet
quand même,
ensemble.
Il y a quand même quelque chose, c'est que le cinéma, ça se partage, un film en tout cas, c'est fait pour être partagé ensemble. Donc moi j'avoue personnellement que regarder un film tout seul devant avec son plus beau home cinéma
quand je parlais d'internet, c'est ce qui permet de financer des films aujourd'hui.
D'accord.
Et donc du coup d'inclure nous les citoyens à participer du coup en amont à la production de ce film,
parce que le film c'est fait pour
pour être dans une salle de cinéma, on est d'accord,
c'est fait pour voyager ensemble.
Exactement.
Pas voyager tout seul devant son écran d'ordinateur.
Pas de soucis, je suis une convaincue de la salle de cinéma. Luc Joulet, on arrive bientôt à la fin de l'émission, vous allez devoir passer à la moulinette de l'interview mitraillette de l'instant 2. Et oui, c'est comme ça.
Si vous étiez
Luc Joulet, une ville d'en haut.
Je sais pas, je serais Marseille.
Facile. Facile. Ok, pourquoi Marseille? J'aurais donné la même réponse, mais est-ce qu'on a la même?
Pourquoi Marseille? Parce que c'est une ville compliquée.
D'en haut, surtout.
Et puis c'est une ville qui semble comme ça très finalement, quand on la regarde un peu, quand on arrive à prendre des points de vue un peu en surplomb, qui semble assez uniforme. Je trouve qu'il y a toujours un peu la même
étendue.
Ouais, et puis une même couleur. Il y a une.
Ah, vous trouvez?
Ah, suivant les lumières, les lumières varient, mais quand on est, voilà, et cette ville, elle est beaucoup plus contrastée, beaucoup plus différente qu'elle peut le laisser apparaître, a priori.
Si vous étiez une ville d'en bas.
Une ville d'en bas.
Pas d'en bas, vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Je sais pas, une ville d'en bas. Je sais pas, un petit village.
Ah, c'est le monde rural qui revient.
Un petit village dans l'Ariège.
Un petit village dans l'Ariège. Vous en avez un en particulier en tête?
Oui, mais je vous le dirai pas.
Mince, j'ai essayé. Si vous étiez, Luc, je voulais une heure de la journée.
Une heure de la journée, je sais pas, 5 heures du matin.
Pourquoi?
Je sais pas, j'aime bien travailler à cette heure-là.
Vous écrivez vos films?
Non, enfin, j'aime bien les débuts de journée.
Ouais. Vous aimez bien les débuts de journée? Vous en avez l'impression que vous êtes le seul et l'unique privilégié à croquer le jour?
Ouais, et puis que le monde un peu nous appartient à ce moment-là, quoi.
Comme les premiers croissants qu'on va chercher le matin, en premier, ça c'est cool.
Ça, je sais pas. Ça vous regarde.
Vous êtes gonflé. Si vous étiez Luc Joulet, allez, je le tente quand même, un film.
Un film?
Eh oui. Et vous êtes réalisateur, à un moment donné, bon, je mets les pieds dedans, c'est pas grave.
Bon, comme vous m'avez invité par rapport à Images de Ville...
Vous n'êtes pas obligé de répondre que de cette...
Non, mais je sais où je suis, donc je sais pas... Sur cette dernière édition du festival, là, l'année dernière, en novembre, on en a découvert quelques-uns de très beaux, et je pense à ce film Play Me Something, voilà, qui est le seul film que l'écrivain d'origine américaine John Berger a écrit.
Ça se passe en Écosse, sur une île écossaise.
Ça se passe sur une île écossaise, et c'est l'histoire d'un voyage, d'un paysan, à Venise. Et ouais, c'est un film magnifique qui nous a tous dans l'équipe touchés quand on a fait la sélection. Et ouais, j'en garde surtout que Timothy Neat, le cinéaste qui avait tourné le film avec John Berger, était venu. Et ouais, c'est un très beau souvenir de cinéma. Aussi Of Time and the City, le portrait que le cinéaste anglais avait fait de sa ville de Liverpool quand la ville avait été capitale européenne de la culture. Je me souviens de la projection de ce film, on n'entendait pas une mouche voler dans la salle. Et il y a des gens qui, à la fin du film, avaient les larmes aux yeux en ayant découvert ce portrait de Liverpool. Donc c'était un beau moment.
Ça fait partie des plus beaux cadeaux quand on dirige, quand on programme des festivals comme ça, ces petits moments-là volés?
Non, c'est pas des moments volés. On fait pas ça pour soi, on fait ça pour les autres. Donc nous, ce qui nous fait plaisir, c'est que quand nos invités, parce qu'en fait, le film, c'est à la fois le cœur et un prétexte. C'est à la fois le centre et puis le début de quelque chose. Un film de cinéma dans le festival, mais enfin, j'allais dire pour moi aussi en tant que cinéaste en général, c'est... Ça clôt pas, ça ouvre, ça démarre quelque chose. C'est la fin de quelque chose pour nous qui avons fait le film, mais c'est aussi quelque chose qu'on va laisser au public et qui va en faire son affaire. Et le film, il ouvre une autre histoire. Donc, parce que le film va être projeté dans une salle, va rencontrer du public, va être l'occasion de discuter. Et nous, ce principe culturel-là du cinéma à Images de Ville, c'est ça qu'on met à l'œuvre chaque année. Donc, quand le film, autour du film, il se passe quelque chose entre les invités, qu'on a eu l'intuition que de combiner, d'associer, de faire se rencontrer, et que cette rencontre-là, tout d'un coup, les gens se découvrent, sont heureux de partager un moment ensemble, et que ce moment ensemble, ils le fassent partager au public, voilà. On a fait notre job, quoi.
Vous me faites partager le livre, l'extrait d'un livre que je vous ai demandé d'apporter.
Ah ouais, vous m'avez torturé. Non seulement une chanson, mais en plus il fallait ramener un livre.
C'est incroyable, mais dites-moi.
Non, je vous ai ramené.
La prochaine fois, je vous
merci de votre invitation.
Bon, ça va.
Non.
Allez, je vous écoute.
Le territoire comme palimpseste et autres essais.
Ça a l'air un petit peu complexe, ça. Hein. Non, comme palimpseste.
Ouais, comme parchemin.
Ah, excusez-moi Luc, je connaissais pas la définition.
Non, c'est un beau mot.
Ah oui, c'est un très beau mot. Mais après un mot, je vous écoute.
Non, c'est par rapport à la question de la ville, que c'est pas juste un truc technique. Je vous le lis.
Bien sûr. pas tout le livre, bien sûr.
Non, non, juste
plus trop le temps.
Dealing.
Allez, ça marche.
Alors, donc c'est un livre d'André Corboz, qui est un professeur d'histoire et d'histoire de l'urbanisme en Suisse. Voilà, et qui écrit la chose suivante. Le territoire, tout surchargé qu'il est de traces et de lectures passées en force, ressemble plutôt à un palimpseste. Pour mettre en place de nouveaux équipements, pour exploiter plus rationnellement certaines terres, il est souvent indispensable de modifier la substance de façon irréversible. Mais le territoire n'est pas un emballage perdu ni un produit de consommation qui se remplace. Chacun est unique, d'où la nécessité de recycler, de gratter une fois encore, mais si possible avec le plus grand soin, le vieux texte que les hommes ont inscrit sur l'irremplaçable matériau des sols, afin d'en déposer un nouveau, qui réponde aux nécessités d'aujourd'hui, avant d'être abrogé à son tour. Certaines régions traitées trop brutalement et de façon impropre, présentent aussi des trous comme un parchemin trop raturé. Dans le langage du territoire, ces trous se nomment des déserts. C'est beau, non ?
C'est très beau.
Voilà. Donc le territoire, c'est d'abord un imaginaire. C'est d'abord le texte des hommes, celui qui a été écrit et celui qui va nous succéder.
Voilà. Vous avez fait mon travail, comme conclusion, Luc Joulet.
Je suis désolé.
Non, je vous remercie, parce que c'était une très belle conclusion. C'est le territoire, c'est d'abord l'imaginaire. On va finir sur ça alors.
Ouais.
Merci beaucoup d'être venu, Luc Joulet.
Merci Mélanie, de votre invitation.
Directeur artistique du Festival Images de Ville et aussi, surtout, je ne sais pas, réalisateur. En tout cas, nous, on se retrouve le mois prochain. On voyagera encore dans une ville ou plutôt dans un territoire, là aussi, les Balkans et la Bosnie-Herzégovine. Avec Sarah Sajne, ce sera l'invité du mois prochain de l'Instant 2, ou comment l'Union européenne et la Bosnie travaillent ensemble ou pas. Aux commandes de cette émission, Sébastien, toujours fidèle, et puis évidemment toute l'équipe de Radio Grenouille. Luc Joulet, bon vent, bon voyage.
À bientôt.
À bientôt.
Au mois de novembre à Images de Ville.
Au mois de novembre 2015 alors. Merci Luc Joulet.
Merci à vous.
Allez, je vous retrouve le mois prochain, je vous embrasse et n'oubliez pas d'aller au cinéma tous les jours. C'est un excellent remède pour la vie en général.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.